Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dumondi.
Chienne Berry. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Comment se porte le syndicalisme au Mali? C'est le thème central de notre émission, le Grand Dialogue de ce soir. Comme vous le savez, le 1er mai, fête du travail, a été célébrée le dimanche dernier. Au Mali, cette année, elle a eu lieu dans un contexte marqué par l'apaisement de la grogne sociale. Est-ce que cela signifie que les droits des travailleurs du Mali sont respectés? Les représentations syndicales défendent-elles assez les droits des travailleurs? Les travailleurs assument-ils leurs devoirs? Le marché de l'emploi prospère-t-il? Pour répondre à ces différentes questions, nous avons deux invités, Issa Bengali, secrétaire administratif de l'UNTM, et Adama Koulibaly, syndicaliste et président du Centru Mali. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. La première question sera pour Issa Bengali de l'INTM. D'où vient la célébration du 1er mai?
Merci madame, et je voudrais profiter de l'occasion déjà pour saluer les spectateurs présents qui nous écoutent tout de suite. Et vous dire déjà que le 1er mai, c'est une histoire. C'est une histoire qui remonte dans les années 1800 et quelques. Alors vous comprenez qu'à l'époque, les travailleurs étaient considérés comme des esclaves. Les gens travaillaient souvent 16 heures de temps, 24 heures de temps, sans repos. Alors, compte tenu de ça, il y avait tellement d'injustices à l'époque que les gens étaient maltraités, il n'y avait pas de repos, que des gens ont pris leur courage en main pour réclamer des droits pour les travailleurs. Et la principale revendication était de pouvoir diviser les 24 heures en trois parties, 8 heures de temps pour le travail, 8 heures de temps pour les loisirs et 8 heures de temps pour dormir. Alors, c'est à Chicago que cette lutte a été menée. Elle a été menée partout dans le monde, mais c'est à Chicago que l'origine remonte. C'est à ce niveau que des travailleurs ont pris toutes les rues, ils sont sortis, ils ont été fusillés. Ils ont accepté qu'on les tue pour qu'au moins les autres travailleurs puissent jouir du fruit de leur lutte. Voilà, c'est parti depuis Chicago. Et c'était le 1er mai 1886. C'est là qu'il remonte l'histoire du 1er mai. Alors, c'est les gens qui sont sacrifiés pour que nous ayons cette liberté aujourd'hui. Alors, nous, travailleurs, nous avons décidé également de mémoriser cette date. C'est de faire en sorte que ces travailleurs-là, que leur lutte ne soit pas tombée en l'eau. Et c'est pourquoi les gens s'organisent chaque année pour fêter le 1er mai, qui est la fête des travailleurs, et faire un rappel aux uns aux autres qui comprennent déjà comment le 1er est venu. Et que les gens puissent comprendre également que le syndicalisme, c'est une lutte continue, une lutte de longue haleine, et qu'à des moments donnés, c'est des sacrifices qu'il faut faire. Même si à des moments, c'est un travail bénévole, alors on est obligé de se sacrifier souvent, comme ceux-là qui ont accepté perdre leur vie pour que nous ne soyons là aujourd'hui. Donc l'histoire du 1er mai remonte depuis 1886. Et là, il y a même une autre histoire en dehors de ça, on va peut-être taire sur ça, sinon c'était, à l'époque, il y avait une plante qu'on appelle le muguet. Et le muguet, là, était une plante porte-bonheur qui s'est trouvée dans cette histoire également. Donc on ne va pas entrer trop en profondeur parce que c'est essentiel pour que les gens comprennent comment le 1er mai est venu. Donc, en définitive, le 1er mai, c'est la fête.
1886, lutte à Chicago. Et comment cette journée est venue, parlons du contexte malien, est venue au Mali et comment est-elle célébrée également?
Alors, quand il y a eu ce mouvement au niveau de Chicago, comprenez que c'est partout dans le monde que les travailleurs étaient maltraités de la sorte. Alors, les pays les plus nantis, avant que ça arrive chez nous ici, parce qu'à l'époque, il faut reconnaître encore que nous n'étions même pas du tout indépendants. Alors, à ce moment, c'est les autres pays, les plus nantis, et les pays européens qui ont emboîté le pas aussi à ces différents travailleurs. Et c'est dans tous ces pays qu'il y a eu des manifestations, notamment en France. Alors, les gens se parlent de ces manifestations jusqu'à ce que, finalement, on a accepté de commun accord dans le monde que cette journée soit considérée comme une journée, comme on appelle, chômée et payée. Donc, le premier a été adopté à l'unanimité dans le monde. Mais l'origine, comme je l'ai dit, ça vient de Chicago. Mais c'est après que tout le monde a emboîté le pas. Et nous, mais aussi en tant que peut-être des pays qui étaient sous colonie encore, des colonisations, nous avons profité de cela aussi pour mener des luttes à l'époque. Même si le syndicalisme n'était pas bien organisé à l'époque, comprennent déjà à ce moment que les gens se sont inspirés de cela aussi pour pouvoir faire face aux colonisateurs à l'époque.
Monsieur Adama Koulibaly, oui. Est-ce que le droit des travailleurs est réellement respecté au Mali?
Bonsoir. Je salue tous vos spectateurs. Je vous remercie pour l'invitation et je profite de l'occasion pour vraiment saluer tous les travailleurs à l'occasion du 1er mai. Bon, vous savez, dire que tous les droits des travailleurs sont respectés au Mali, c'est trop dire, parce qu'il faut dire qu'il y a le secteur étatique, il y a le secteur privé et il y a l'informel. Tous ces gens-là emploient des travailleurs. Si au niveau de l'État, c'est bien structuré, au niveau de certaines structures privées, c'est structuré, mais dans certaines structures privées, ce n'est pas très, très structuré. Par exemple, quand nous prenons, nous, en ce qui nous concerne, les transporteurs, nous avons des chauffeurs que nous employons. Et généralement, j'avoue que ils sont pas bien payés, faut le reconnaître. Les allocations familiales et sociales ne sont pas payées, et donc c'est un véritable problème. Donc dire que les droits des travailleurs sont respectés au Mali, bon, c'est trop dire.
Et alors, quels sont les droits les plus violés pour les travailleurs?
Bon, moi, je pense qu'au Mali, le droit le plus violé, c'est d'abord le niveau du salaire. Parce que ce soit l'État ou les privés, vraiment, nous considérons que le salaire est très bas au Mali. Le travailleur, il s'en sort difficilement avec le salaire qu'on lui paye. Ça, c'est une réalité au Mali. Que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau du privé, que ce soit dans l'informel. Dans l'informel, par exemple, quand je prends un éleveur qui emploie des pulls pour les bœufs, vous voyez, ce n'est pas structuré, le salaire n'y est pas, et vraiment, c'est des gens qui travaillent en dehors de toute heure de travail, à tout moment. Et ouais, c'est pas très très évident. Quand nous prenons le chauffeur, quand un chauffeur quitte ici pour aller jusqu'à Dakar, vous voyez la distance, il fait ça, il conduit et la nuit et le matin. Normalement, sur une telle distance, ce qui est recommandé, c'est deux chauffeurs. Un conduit jusqu'à une certaine heure et l'autre aussi conduit jusqu'à une certaine heure. Pour, évidemment, pour leur donner un temps de repos. Mais vous voyez, cela n'est pas fait au Mali, parce que
cela
les conditions
n'est pas fait
ne
au
sont
Mali,
pas requises.
On voit que les conditions ne sont pas écrites, certains droits sont violés. Mmh. Alors, qui doit s'assurer du respect des textes, alors?
Bon, c'est les fêtières. C'est les fêtières, il y a l'UNTM, qui est vraiment la fêtière la plus importante au niveau des travailleurs. Il y a d'autres, comment on appelle ça, d'autres fêtières aussi qui sont là.
Centrales syndicales.
Il y a d'autres centrales syndicales qui sont là. Ils se battent. L'INTM se bat pour vraiment améliorer les conditions de vie des travailleurs. Mais vous voyez, le fait que les revenus sont très limités, hein, l'avoir de l'État ne suffit pas pour vraiment absorber une certaine augmentation de salaire. Donc, il y a un handicap qui est là. Bon, quand je prends mon secteur que je connais, vous voyez, le prix du transport est très bas, très, très bas. Le transporteur lui-même s'en sort difficilement. À plus forte raison, le chauffeur. Si le patron même s'en sort difficilement, il va sans dire que le chauffeur va s'en sortir aussi difficilement. Donc il y a toutes ces conditions-là. Mais tout dernièrement, il y a eu des réunions entre nous, l'UNTM, le ministère du Travail, et le CNPM, pour vraiment essayer d'augmenter le salaire des chauffeurs pour avoir vraiment un minimum. Ce minimum a été fixé à 80 000 francs pour les chauffeurs. Mais j'avoue que...
Secteur formel ou informel,
tout le monde,
pour, ouais, tout le monde, ouais, pour tout le monde, 80 000 francs pour un chauffeur. Francs.
Voilà, c'est ce qui a été décidé tout dernièrement. Ça a été à l'initiative de l'UNTM. Bon, mais j'avoue que ce n'est pas très, très, très bien respecté.
Mais avant d'arriver à là, combien était payé un chauffeur? Un chauffeur était payé à combien?
Bon, vraiment...
Madame, ça dépendait.
Et à tous les prix.
OK.
Et à tous les prix... Il y en a qui pèsent, il y en a... Parce que ça dépend du catégorie du transport. Voici, le transport, il y a le transport urbain, il y a le transport interurbain et il y a le transport international. Dans le transport urbain, vous avez les taximans, vous avez les sous-tramways là, qui circulent entre les quartiers. Dans le transport interurbain, vous avez les gros compagnies de transport là. Hein? Ensuite, il y a les petits cars. Et l'international, vous avez les remorques. Bon, ils n'ont pas les mêmes niveaux de salaire.
Alors, vous venez d'entendre M. Koulibaly qui dit que le respect de certains textes concernant le droit du travail est garanti par les centrales syndicales, dont l'UNTM. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites?
En fait, c'est une très bonne question parce que c'est une préoccupation majeure aujourd'hui quand vous parlez déjà des droits des travailleurs. Il est évident quand même qu'il faut reconnaître que les droits sont quand même violés. À certains niveaux. Il a parlé du salaire, c'est vrai, c'est une réalité, le salaire est là, même il est en train de se battre pour améliorer le niveau de vie des travailleurs. Et je pense qu'on a eu peut-être quelque chose pour les travailleurs tout récemment. Mais le problème n'est pas à ce niveau seulement, le problème c'est déjà certains droits auxquels le travailleur doit prétendre où il en est privé. Notamment le fait de s'organiser même en syndicat, c'est un problème dans certains services. Une fois que vous avez un comité syndical constitué, la cible principale devient maintenant les éléments que compose le comité syndical. Ça, c'est une violation de la liberté syndicale. Et nous, en tant que syndicats, nous devons veiller à l'application de la législation en place. Mais le garant de cette législation, c'est le ministère du Travail. Parce que les institutions du travail relèvent du ministère du Travail et ils doivent être le garant de la législation. Alors, si chacun fait son travail correctement, il est quand même évident qu'on va s'en sortir par rapport à cette violation des droits des travailleurs. Prenons l'exemple sur les multinationales qui utilisent les pompistes que vous voyez déjà, qui étaient en grève tout récemment, des gens qui sont payés en dessous du SMIC. Le SMIC, vous voyez, c'est 40 000, et c'est des gens qui sont payés à 20 000 francs, 30 000 francs, et tout. Et comprenez déjà, c'est une violation grave des droits humains. C'est pourquoi quand il a parlé tantôt de salaire, c'est une réalité qui est là. Et c'est un combat que nous sommes en train de mener, que le syndicat mène aujourd'hui, pour qu'au moins que ces gens-là puissent avoir un travail de ça. Parce que la violation, c'est déjà quand on ne respecte même pas la législation en place. Donc, nous sommes un garant et nous sommes déjà là pour bien veiller à l'application stricte de ces mesures législatives qui sont là. Mais le garant, c'est l'État et les employeurs également. Donc, à partir avec le cadre du tripartite, qu'on puisse toujours s'entendre. Et les réunions ne finissent pas. Hein. À chaque fois, nous sommes ensemble pour pouvoir se conscrire quand il y a des cas de violation des droits. Et aujourd'hui, je me profite de ce micro pour en parler. Vous partez déjà à Semilo, une entreprise d'exploitation minière déjà, qui a foutu, mis tout le comité syndical à la porte parce qu'ils ont osé aller en grève. Et là, on est dans cette situation jusqu'à présent, ces gens sont à la porte. C'est une violation grave quand un syndicat, quand même, il a le droit aussi d'aller en grève parce que la grève fait partie des droits. Alors, si aujourd'hui, ces gens-là sont stigmatisés par les chefs d'entreprise parce qu'ils ont été en grève, alors, on a évoqué les motifs économiques et ces gens se trouvent à la porte. Alors, c'est ceux-là même qui doivent être là, qui doivent aider les chefs d'entreprise. En ce moment, quand on commence par les syndicats, donc on comprend déjà que c'est un licenciement sélectif qui a été fait à ce niveau. Voilà, donc c'est vous dire que nous sommes là, on veut à ça. Mais ça ne peut marcher que si employeurs, travailleurs et puis l'État, nous avons à parler ensemble, qu'on puisse prendre des mesures fortes et que chacun puisse jouer son rôle pleinement.
Et alors, comment vous voyez aujourd'hui le syndicalisme au Mali?
Le syndicalisme au Mali, je pense qu'au départ, on avait des soucis. Les soucis étaient liés surtout au plurisyndical. Parce qu'il y a eu vraiment la démocratie. Alors, le syndicat n'a pas échappé à la règle également. Mm-hmm. Parce que quand il y a eu la démocratie, tout de suite, il y a eu le plurisyndical. Qui, aujourd'hui, avait affecté négativement déjà les mouvements syndicaux au Mali. Parce que, comprenez, je vous le dis franchement, que quand il y a eu l'UNTM s'est battu pour la démocratie, Alors, la première action que les hommes politiques ont pu eu à poser, c'était de chercher à dissoudre, sinon faire disparaître l'UNTM, donc à diminuer ses forces. Et je vous dis que ces créations sont très généralement des créations des hommes politiques qui ont d'autres intérêts à diviser le syndicat. Bon, quand cela ne tienne, je pense que les gens ont compris, parce que quand il y a eu, en 1997, déjà la création de la deuxième centrale, la CSTM, dans le temps, c'était pratiquement à côté tiré entre la CSTM et l'UNTM, parce qu'une fois qu'une centrale est créée et qu'elle n'est pas créée en tout cas à suite d'une idéologie syndicale, sauf par la suite. Peut-être de mécontentement, c'est-à-dire qu'il y a un congrès, je n'ai pas eu la part que je veux, ça crée un problème. Et au départ, ça crée des problèmes, les gens ne s'entendaient pas. Et entre-temps, il y a eu encore la création d'une autre centrale également, la CMT. Cette CMT aussi, c'est venu en bras par les mêmes problèmes, parce que l'initiatrice même de cette centrale, elle était aussi au chemin des fers à l'époque, et il y a eu ces mêmes problèmes elle était aussi un peu lésée, et chaque fois qu'il y a un problème, au lieu que les gens continuent à se battre, tout de suite on se retire, on met en place une centrale qui fragilise le monde syndical. Après, il y a eu en 2015 à peu près comme cela, et encore la création de la quatrième centrale, la CDTM. Et ça aussi, ça a suite d'un congrès toujours. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un mécontent, il se retire, il crée une centrale. Et ça crée des problèmes souvent. Donc, ça, au départ, ça va créer des problèmes. Mais aujourd'hui, nous avons compris qu'il faut forcément aller vers l'unité d'action syndicale. Et c'est pourquoi, très longtemps, il y a la CSM et puis l'UNTM qui sont dans des programmes communs, surtout avec des partenaires, notamment la Fondation Hébert et aussi la CNV internationale qui nous assiste dans beaucoup de programmes. Même la CSI aussi, à travers le CARES, qui fait des merveilles aussi, qui regroupe les deux centrales. Je pense qu'on commence à comprendre qu'il faut ensemble. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le syndicalisme malien se porte bien, même si les gens ont des impressions différentes. Et ça se porte bien. On est déjà en train de dépasser le cap même des égaux et on est en train d'aller vraiment vers l'essentiel qui est la défense des intérêts des travailleurs. Et là, l'UNTM n'a jamais fait ça aussi. On n'a pas été compris par les institutions. L'UNTM, depuis sa création en un jour, elle s'est toujours battue pour tout le monde. On n'a jamais dit, voilà, l'UNTM n'est pas avec l'UNTM, donc quand on a quelque chose, la personne va bénéficier, ça n'a jamais été fait. Donc l'UNTM était toujours là. Même ceux qui sont partis aujourd'hui connaissent quand même qu'il faut vraiment aller ensemble. Et ça, c'est très important. Sinon, vous comprenez déjà, pendant cette décennie, et les avantages qu'on a eu pour le travail, vous comprenez déjà que c'est quand même énorme. Ce n'est pas pour féliciter.
Nous allons en venir aux avantages. Mais vous parlez déjà de quatre centrales syndicales, pluralisme dans le syndicalisme. Est-ce que vous avez une idée du nombre de syndicats aujourd'hui au Mali?
Madame. Avant...
Je vais en venir juste à la suite et puis je vais en venir.
Quand vous parlez du nombre de syndicats, il faut que je comprenne bien parce que quand vous dites du nombre de syndicats, il y a des centrales qui sont là déjà et quand les centrales sont composées également de certains démembrements
de qu'on certains peut appeler,
peut-être des syndicats nationaux, c'est d'accord. Mm-hmm. Voilà, donc, c'est pour l'UNTM déjà, je sais quand même que nous sommes 13 syndicats nationaux qui composent l'UNTM. Et le quatrième, ça, c'est le travail de l'UTMF, l'Union des travailleurs maliens de France, qui compose avec l'UNTM également. Donc, pratiquement, après les 13 syndicats nationaux, il y a le 14e qui est les travailleurs de France. D'accord. Donc, ça, c'est le démembrement de l'UNTM. Okay. Maintenant, si on doit entrer en profondeur dans le truc, là, chacun peut-être a une appellation pour ce démembrement. Voilà. Nous avons des unions régionales par rapport au découpage administratif. Nous avons nos responsabilités qui sont représentées partout également. Voilà.
Monsieur Koulibaly, la parole est à vous. La même question, comment vous voyez aujourd'hui le syndicalisme au Mali?
Bon, moi, quand M. Bangali me dit que le syndicalisme se porte bien...
Vous n'êtes pas d'avis apparemment.
Moi, je m'inscris en faux à cela. Parce que, comme il a si bien dit, quand vous prenez les syndicats du patronat et les syndicats des travailleurs, il y a une grande division.
Et quelle est cette division ?
Il y a des multitudes de syndicats qui se créent et qui sont presque antagonistes. Et chaque fois qu'il y a une lutte qui est là, le gouvernement se sert d'un de ces syndicats pour combattre les autres. C'est la pratique, hein ? C'est ce qui se fait généralement. Par exemple, quand vous prenez notre secteur, le transport, avant, quand vous prenez le transport urbain, tous ces gens-là étaient à l'UNTM, sous la bannière du syndicat privé. Ils étaient tous à l'UNTM. Mais aujourd'hui, il y a 4 syndicats. Parce que il y a eu une coordination. Le syndicat privé était là. On a créé une coordination des chauffeurs qui était affiliée aussi à l'UNTM. Bon, il y a eu un congrès. Il y a un qui a gagné, l'autre n'a pas gagné. L'autre aussi a créé une coordination. Donc, il y a 2 coordinations. Il y a le syndicat privé et il y a nous-mêmes. Saint-Tru Mali, on a un syndicat de chauffeurs de Sotrama. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des gens qui se combattent farouchement. Farouchement. Et nous, on a fait 2 ans dans ça, au niveau du transport urbain, au niveau de Raïda. Personne ne travaille. Parce que il a fallu qu'on aille à la justice pour que la justice tranche, pour dire que vous avez les mêmes droits et vous devez travailler ensemble. Donc, vous voyez, c'est la difficulté qui s'oppose et à l'UNTM et au syndicat du patronat. On est tout le temps divisé. Même le CMPM, tout dernièrement, là, il y a eu scission. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le problème de... C'est-à-dire, comme il a dit, à la faveur de la démocratie, avec la multiplication des partis politiques, on a eu le même problème au niveau des syndicats. Que ce soit le syndicat des travailleurs, que ce soit le syndicat du patronat. Il y a eu des multitudes de syndicats. Donc voilà une des grandes difficultés. Mais chez nous, par exemple, nous, pour compenser vraiment l'histoire du salaire, là, on a vu que les salaires sont très bas. On a demandé aux travailleurs, les chauffeurs, de s'organiser en syndicat. Donc, il y a Sinacor qui est là, il y a Bengadi qui est là, et comme je l'ai dit, dans le transport urbain, il y a 4 syndicats. On les permet d'émettre des billets. Hein? Ils émettent des billets. Par exemple, moi, quand mon camion charge, je paye, moi, au titre de mon chauffeur, une certaine somme pour le syndicat des chauffeurs. Cette somme-là devait servir à régler certains problèmes sociaux les concernant. Mais il faut savoir que cette manne financière est très mal gérée par les responsables même de ces syndicats-là. C'est ça le drame aussi.
Mais vous conviendrez avec nous et avec certains observateurs qui disent que cette année, le fonds social s'est beaucoup apaisé. Nous assistons à moins de grèves.
Oui, bien sûr. Ouais, il faut reconnaître cela. Il y a eu moins de grèves parce que je pense que le gouvernement a compris qu'il ne faut pas jouer entre les syndicats. Parce que ce qui est arrivé, quand l'UNTM a fait sa première grève, bon, on a voulu dresser les autres syndicats. Et quand l'État s'est rendu compte que vraiment ça ne pesait pas beaucoup lourd, ils sont revenus à la raison. Pour vraiment essayer de négocier avec l'UNTM pour apaiser le front social. Et les autres syndicats aussi ont compris que vraiment, il faut qu'ils aillent avec, qu'ils soient ensemble, vraiment pour apaiser le front social. Sinon, bon, comme ça, là, personne ne gagne. Donc, il faut reconnaître que vraiment, il y a eu un peu d'apaisement au niveau du front social. Au niveau du transport, évidemment, il y a eu des grèves, surtout quand le ministère des Transports a voulu changer les règles du péage. On a fait une grève pour tout arrêter. Et bon, à partir du moment où le gouvernement a accepté de négocier avec nous, donc ça s'est apaisé. Il faut dire que le gouvernement a vraiment changé de méthode. Mm-hmm. Le gouvernement essaie de négocier avec les centrales et avec les syndicats du patronat, vraiment pour apaiser le front social. Ça, c'est à l'actif de l'actuel gouvernement, il faut le reconnaître.
Monsieur Bengali, est-ce que vous êtes d'avis que c'est cette démarche, le fait de négocier avec certains syndicats, avec l'appui du patronat, qui expliquerait sans doute l'apaisement de la grogne sociale?
Bon, ça, c'est une réalité qui est là. Mais c'est bon, je voulais un peu revenir parce qu'il a bien dit. Quand je disais que ça marchait bien, ça marche bien parce qu'en réalité, il y a une centrale qui est là, qui a sa force. C'est ce qui a fait un peu sauver le Sénégal du Mali. Sinon, je suis d'accord avec lui. Si on était parti avec cette miniature de syndicats, on serait à la merci du gouvernement. Heureusement que l'UNDEM restait toujours serein et qu'il a pu rester toujours organisé et qu'il a pu influencer beaucoup de choses. Il vient de le dire, c'est à travers ça qu'on a pu, quand on a voulu juger la force de l'UNDEM, on a compris que la force, c'est une force qui est toujours là. Ça a facilité beaucoup de choses. Sinon, en réalité, quand les syndicats se forment et qu'au lieu de s'intéresser à la lutte, et pour les intérêts des travailleurs, c'est une lutte à l'interne, une lutte contre les uns et les autres déjà. L'objectif, c'est de chercher à neutraliser d'autres là. À cet âme, maintenant, ça ne va plus. Et donc, nous avons compris ça à l'UNT, mais on a toujours été organisé. En toute transversalité, on pose les actes pour tous les travailleurs. Donc, c'est vrai, cette démarche que l'État a eu à faire, le climat a été apaisé tout récemment. Il a été apaisé tout récemment parce que l'UNT a essayé de voir, parce que nous sommes quand même devant une situation d'exception au Mali. Du Covid-19 qui a paralysé pratiquement le système, nous sommes arrivés déjà à des sanctions de la CEDEAO face à la situation qui est tout exacerbée par une crise sécuritaire permanente au Mali. Alors, il y a un moment où les gens doivent réfléchir. Et voilà, quand le gouvernement a voulu demander au Sénégal qu'on puisse vraiment aller à une trêve, on n'a pas signé formellement une trêve. Mais en toute responsabilité, nous avons accepté compte tenu du moment. Et là aussi, on entend des camions de jeu, mais il y a un mais dans ça, parce qu'il faut que le gouvernement pense que nous allons rester comme cela, inerte. Non. Le problème est qu'on ne voit pas poser des révélations nouvelles de suite. Mais les acquis intégrés qui sont là, et ceux qui ont fait l'objet d'un accord, il faudra qu'on les mette en œuvre. Parce que si ce n'est pas mis en œuvre, alors on va se reconnaître dans cette trêve encore. Parce que d'abord, c'était déjà des points d'accord qui étaient là. Et si, aujourd'hui, il y a cette trêve-là, il ne faut pas que cette trêve-là soit préjudiciable aux acquis des travailleurs, intérêts des travailleurs. C'est ça le problème aussi. Il faudra que l'État songe à la mise en œuvre des points d'accord. Contrairement à ce qu'on entend de voir, parce qu'on entend des côtés de gauche à droite, bon, les sorties de certains premiers résultats du gouvernement qui disent que tel aspect n'est pas d'actualité, comprennent déjà que ce n'est pas une manière à maintenir cet apaisement au niveau de la trêve. Ce n'est pas comme cela. On a accepté, mais en gros, il y a des gens qui nous attendent. C'est pendant des négociations qu'on s'est mis d'accord sur certains points. Et ces points doivent être mis en œuvre, quels que soient les problèmes. Alors donc, je suis d'accord, c'est la démarche entreprise par le gouvernement pour qu'on puisse aller à la calme, qu'on puisse apaiser le climat social. Cette demande de trêve est venue comme cela. Elle même, c'est une résolution peut-être des années aussi. Mais à ce niveau aussi, je retiens encore qu'on n'a jamais signé quelque chose dans ce sens. C'est sur le centre de responsabilité que nous avons accepté d'aller en trêve parce que nous savons aussi que le Mali a aujourd'hui l'État mené à des difficultés, notamment avec l'embargo et autres là qui sont là. Sur nos usines qui souffrent aujourd'hui, parce que le contrat des membres du CNPEC présents ici, nous savons ce qui se passe dans les usines. Nous savons aussi, l'État aussi a des difficultés aujourd'hui. Est-ce que c'est le moment pour nous d'aller à l'évolution du plan social? Non, c'est une responsabilité partagée, voilà pourquoi nous sommes à ce niveau. Donc c'est un appel du gouvernement que nous avons voulu accepter, mais il ne faudra pas aussi qu'on accepte aussi cette trêve-là comme c'était une soumission. C'est ça aussi qu'il faut dire.
D'accord. Vous parliez tantôt également de quatre centrales syndicales. Est-ce que la multiplication des syndicats ne joue pas aujourd'hui sur le syndicalisme? Trop d'interlocuteurs sur la table.
Oui, c'est ce que le patronat avait voulu dire tout de suite. Quand j'avais dit que ça marchait, il a évoqué le problème. C'est vrai que tant qu'il y a cette multitude de syndicats, de centrales, alors ça peut nuire. Parce que tant que les gens parlent d'unité syndicale, aller à unité d'action syndicale, alors, au lieu d'aller à une unité d'action syndicale, pourquoi ne pas rester en unité dans le temps? Parce que les gens vont créer des centrales, après ils demandent d'aller à une unité d'action syndicale. Je dis encore, il faudra que les gens partagent les mêmes idéaux. Parce que si les centrales sont là, et les centrales n'ont pas les mêmes idéaux, il n'est pas évident que les gens aillent ensemble. Mais le jour que tout le monde va comprendre que voilà, il faut forcément aller ensemble, nous sommes dans cette logique, les gens peuvent se retrouver. Mais la multitude des syndicats n'est jamais une solution. C'est comme l'habitude des partis politiques. Nous ne sommes pas dans la politique, mais c'est la même chose. On a vu au Mali, c'est que ce n'est pas dans la politique, où chaque famille peut créer un parti politique. et c'est accepté. Et c'est le même cas qu'on est en train de voir dans le mouvement syndical. On a dit à l'État de faire attention. C'est l'État même qui encourage la création de ces centrales. L'État même se précipite à donner main, à convier ces gens sur la table, même signalement par un congrès constitutif. Ça, c'est grave. Parce qu'une centrale, quand même, elle doit quand même faire un congrès constitutif. Et il y a des principes qu'il faut respecter. Il y a certains principes quand même qui sont des critères qu'il faut respecter pour être central. Mais l'État n'a pas besoin de ça. Si une famille se lève aujourd'hui pour dire « je suis central », alors rapidement l'État commence à les convier sur la même table que les autres. Bon, à des moments donnés, on ne peut pas se comprendre. Surtout que si les gens se séparent sur vraiment un malentendu, et que faire assortir le monde sur le même table, ce n'est pas facile. Le thème qu'on n'a jamais refusé, d'aller avec les autres. Mais on ne peut pas aussi s'asseoir avec les gens qui cherchent à vous détruire. Aujourd'hui, si l'UNTEM pose des revendications pour améliorer les conditions de vie des travailleurs, et qu'une centrale se mette à travers ces questions qu'elle-même doit bénéficier, comprenez qu'on ne peut pas accepter aussi et aller avec ces gens où ne partent pas les mêmes idées. C'est ce qui arrive souvent. Si on a l'habitude de centrale, si c'est bien cadré, si les gens ont des objectifs précis, il est évident que les gens peuvent s'entendre. Parce que quand vous prenez le Sénégal, il y a quand même plus de 20 centrales au Sénégal. Mais les élections professionnelles sont là aussi pour départager. C'est pourquoi quand vous partez au Sénégal, il n'y a que 4 centrales qui ont passé aux élections professionnelles. Et les électeurs de l'État maintenant, c'est ces 4 centrales. Les autres là sont obligés de passer par les autres centrales pour se faire entendre. Et je pense qu'au Mali, ça va arriver un jour aussi. Parce que la multitude des centrales commence à se créer. Ça va créer des problèmes. C'est question de leadership, je vous dis. C'est souvent une question de leadership. Je comprends comme cela. Parce que normalement, il est quand même évident que quand vous êtes dans une structure et des élections, vous êtes battus, préparez-vous pour une élection future. Et ça nous permet toujours de rester à l'unicité syndicale. Donc, on ne parle même plus d'une élection syndicale si nous sommes toujours dans l'unicité. Bon, quand ça ne tient, il vient à téléphone de bois. Maintenant, je dirais que les gens commencent à revenir les meilleurs sentiments. Dans le temps, on ne peut pas parler de CSM et UNTEM. On ne peut pas les voir sur la même table, mais aujourd'hui. Et tout le monde le voit. Même demain, nous avons une activité commune demain, le lancement d'un produit syndical. Et ça sera pour demain, il y a la CSM qui sera là-bas. Et certainement, il y aura la Catelet, le secrétaire général de l'UNTEM et puis Guindo, le secrétaire de la CSM. Ça veut dire déjà que nous sommes en train de partir de façon positive, en train d'aller vraiment vers une nouvelle unité d'action syndicale. Et que dans cette unité, il faut que les gens connaissent le poids des autres aussi. C'est ça le problème. Il faut que quand les gens connaissent le poids de l'UNTEM, ça nous permet d'aller ensemble aussi. Mais quand vous niez en bloc toujours ce qui est propre à une centrale, on ne peut pas se comprendre. Et alors que l'UNTEM, elle s'est toujours battue pour tous les travaux du Mali, et de l'indépendance jusqu'à nos jours, je pense que tous les acquis, c'est l'UNTEM qui a là-bas les acquis. Ça, c'est évident. Et c'est les acquis qui sont partagés pour tous les travailleurs.
Monsieur Koulibaly, votre regard sur cette même question, une multitude de syndicats est-elle mauvaise ou bonne pour la lutte syndicale?
Bon, moi je vous ai dit tantôt que en faveur de la démocratie, l'instauration de la démocratie au Mali, il y a eu des multitudes de syndicats. Et au niveau des travailleurs ou au niveau des patronats. Quand vous prenez, nous par exemple, le secteur transport, les syndicats des transporteurs, il y en a tellement. C'est comme des partis politiques. Ils n'ont ni siège, c'est-à-dire que, comme il a dit, ils créent comme ça, on dit, on a créé un syndicat, le gouvernement ne s'assure pas s'il a un siège, s'il a fait un congrès constitutif, ou s'il y a ceci, cela, mais on les convie à la réunion, à des réunions avec les autres qui sont structurés. Vous voyez, ça, il y a mal d'ordre. Donc, nous disons que la diversité, c'est toujours une bonne chose, mais il faudrait qu'elle soit contrôlée et structurée. Si elle n'est pas contrôlée, si elle n'est pas, si ça se fait dans l'anarchie, ça va nuire au mouvement syndical, que ce soit au niveau des travailleurs, que ce soit au niveau du patronat. Ça, c'est une évidence. Dans le cas actuel du Mali, c'est l'anarchie. Chacun se lève, il crée un syndicat et voilà.
Donc, dans le camp malien, souvent quand on entend syndicat, on songe immédiatement aux grèves. Ouais. N'y a-t-il pas un autre moyen de revendiquer outre que les grèves dans le syndicalisme?
Bon, il faut reconnaître que le syndicalisme malien est très pacifique par rapport aux autres pays. Très, très pacifique. nous faisons moins de grèves. C'est lorsque les syndicats sont poussés à bout de souffle qu'ils entament la grève. Sinon, le syndicalisme malien a été toujours un syndicalisme de négociation. Il faut le reconnaître. Hein. Depuis le temps Modibo jusqu'à temps Moussa jusqu'à maintenant, les syndicalistes, il faut le reconnaître, se sont illustrés vraiment dans la négociation. On a vu dans d'autres pays, c'est vraiment c'est chaud, c'est la guerre. Même quand on prend la France actuellement, hein, les centrales syndicales là-bas, c'est vraiment le chaos. Hein, regardez comment le défilé du 1er mai, ça s'est passé en France. Il y a eu des casses partout. Des casses partout. Moi, je pense qu'il faut vraiment saluer le mouvement syndical des travailleurs maliens pour leur indépendance d'esprit et surtout pour leur prédisposition à négocier et à obtenir des avantages au lieu d'aller à la grève. Donc, ils ont toujours privilégié vraiment le dialogue. C'est lorsque vraiment ça se casse, bon, il n'y a pas d'autre moyen, on va en grève. Quand nous prenons nous, notre grève contre le péage, on a essayé de montrer au gouvernement que ce qu'ils veulent faire, c'est impossible de le pratiquer au Mali. Ils prennent l'exemple de la France. La France, il y a le péage, c'est sur les autoroutes, c'est des trucs privés. Si tu veux, tu l'emprunes, si tu veux, tu ne l'emprunes pas. Mais chez nous, ici, il n'y a pas d'autoroute, c'est une seule voie. Quand tu veux quitter ici à la Dakar, c'est la même voie. Si vous voulez appliquer les principes d'aller-retour sur cette voie-là, ça ne marche pas. On a essayé de les expliquer, mais ils n'ont pas voulu comprendre. Finalement, c'est avec la grève que ça s'est arrêté. Voilà. Mais on a d'abord essayé de négocier avec eux. On a tout fait. Mais ça n'a pas abouti.
Quelles sont les limites des droits, les limites des droits syndicaux, monsieur Bangali?
Bon, les limites, quand on parle des limites, je ne peux pas vous dire qu'il y a
une ligne à ne pas dépasser.
Non, tant qu'on n'est pas satisfait, le syndicat a toujours des droits de défendre. Parce qu'aujourd'hui, il a parlé tantôt de la grève. La grève, c'est la dernière arme du syndicalisme.
Et quelles sont les autres armes, alors?
Les autres armes, ça, c'est le dialogue, d'abord. Vous comprenez déjà que le Mali, c'est quand même, par essence, un pays de dialogue. Et vous avez compris que même chaque fois qu'il y a des grèves qui sont annoncées, il y a les religieux, il y a beaucoup de gens, des notables, qui viennent voir les syndicats pour qu'ensemble, on puisse avoir une solution pour éviter d'aller à la grève. Ça voudrait déjà que nous sommes un pays de dialogue, déjà. Et le syndicat aussi a toujours privilégié le dialogue social. Et c'est pourquoi on attend d'insérer même le dialogue social dans toutes les entreprises, à tous les niveaux, pour qu'on puisse vraiment pouvoir circonscrire les problèmes sans passer par les grèves. Mais je vous dis qu'il y a certains chefs d'entreprise qui exploitent cela comme si c'était une faiblesse du syndicat et qui poussent les gens à l'extrême. Alors pourquoi quelque chose que vous pouvez faire maintenant, vous ne le faites pas? Alors vous attendez juste qu'il y a une grève alors pour réagir positivement. C'est voilà pourquoi les gens se disent, donc, tant que vous ne faites pas une grève, votre problème n'est pas résolu. C'est le problème qu'on peut résoudre sans aller par la grève.
Donc, c'est souvent la situation qui vous pousse à aller en grève.
C'est la situation que pour les gens. Parce qu'on a déjà, quand il y a un problème qui est différent, qui oppose le travail à une entreprise ou à l'État, il y a quand même un délai qui est prévu par la législation. Il faut déposer déjà le préavis de grève 15 jours à l'avance. C'est uniquement pour que pendant ce temps, qu'on donne la chance aux négociations. À ce temps, maintenant, si l'État est là, il y a la conciliation qui est constituée. Et on essaie d'avoir une solution avant que la grève soit effective. Alors, s'il n'y a pas d'entente, les gens sont obligés de partir en grève. Alors, c'est à ce niveau-là que les gens doivent mettre le pas et voir en réalité ce qui peut être fait, ne pas marchander avec les syndicats. Parce qu'à un moment donné, c'est le patron, mais c'est le gouvernement qui marchande avec les gens en pensant qu'en les faisant, qu'on va gagner quelque chose. Et alors, chaque fois que quelqu'un vous voit une pression et que vous cédez, alors la personne a toujours attendu d'aller à ça aussi. Moi, je pense qu'on peut souvent se concentrer nos problèmes à travers le dialogue social. Les limites du syndicat, comme vous l'avez dit, le syndicat n'a pas de limites. Les limites seulement dans une entreprise, c'est qu'il y a certaines actions dans lesquelles le syndicat ne doit pas s'impliquer. La gestion d'une entreprise, pratiquement l'organisation du travail ne compte pas quand même un syndicaliste. Même dans au niveau du gouvernement, les nominations, ce n'est pas le syndicat qui doit dire ça, ce n'est pas l'affaire du syndicat. Nous avons les limites aussi. Parce qu'il y a les prérogatives quand même de l'employeur qui sont là. L'État, c'est un employeur. Et il y a là ces prérogatives que le syndicat ne doit pas empiéter. C'est comme ça qu'on dit que moi, on ne veut pas de tel ministre. Bon, ça peut se faire. Mais en réalité, c'est une mission. Nous, il y a quand même le côté. Il y a quand même l'emploi aussi qui a des prérogatives qu'il ne faut pas limiter et dépasser. Mais le syndicat, lui, en restant, dans ses prérogatives, qui est la défense des intérêts. Mais tant qu'il y a les intérêts qui sont là, est-ce que le Sénégal va s'agiter? Moi, j'ai besoin de quelque chose, on me donne ça, mais la guerre est finie, là. Donc, il y a la limite. C'est quand nous, on a satisfaction, alors en ce temps, on s'arrête. Sinon, on a toujours cette arme, la grève, elle peut être répétitive. Et souvent, elle peut nuire à tout le monde, mais en réalité, il n'y a pas de limite à la lutte sénégale. Mais c'est une lutte de longue haleine, et c'est les hommes qui nous demandent aux gens et aux autres de comprendre aussi. C'est pourquoi l'État lui-même qui a multiplié les centrales, je l'ai dit, je le répète, c'est l'État qui a mis les centrales en pensant qu'il allait affaiblir l'UNTM. L'État se trouve confronté aujourd'hui à des négociations sans cesse. Les ministères du Travail aujourd'hui, là, ils n'ont même pas de choses à faire. Ce n'est pas les négociations syndicales tous les jours avec les partenaires sociaux.
Alors, il nous reste moins de 5 minutes pour clore cette émission. Okay. Le temps de faire un dernier tour de table. Monsieur Koulibaly, est-ce que le marché de l'emploi prospère au Mali actuellement? Il y a assez de débouchés.
Bon, vous savez, le Mali traverse une situation très, très difficile actuellement. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas parler de... que le marché du travail prospère. C'est un peu difficile. On est dans une situation très, 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 très difficile avec les sanctions de la CEDEAO. Vraiment, ça limite les performances des sociétés. Ça limite même l'État dans ses devoirs vis-à-vis des travailleurs. Mais moi, je voudrais un peu revenir là sur quelque chose, parce que vous avez parlé tout de suite des avantages de l'état actuel du syndicat malien. Moi, en observateur neutre, moi, je considère que les centrales syndicales ne jouent pas beaucoup sur l'éducation des travailleurs. Parce qu'un travailleur, tu as des devoirs, tu as des droits. Mais souvent, on se base sur les droits et on néglige les devoirs. Vous voyez l'administration, ce qui se passe. Tu viens pour faire une lettre, pour déposer quelque chose, c'est la croix et la bannière. Hein, tu es mal reçu, des fois c'est vraiment difficile. Donc moi, je pense que les centrales syndicales doivent vraiment mettre l'accent sur l'éducation des travailleurs, les faire comprendre qu'ils ont des devoirs, il faut revendiquer,
qu'ils ont des droits. Cette éducation, mais il faut toucher également. Ouais. Il nous reste pas assez de temps.
Oui.
Dans votre secteur qui est le transport aujourd'hui, quelle place vous donnez aux droits des femmes? Est-ce qu'il y a assez de femmes? Quelle place vous donnez aux femmes au niveau du transport?
Nous disons que la place des femmes est très faible. Très, très faible. Il faut le reconnaître. Les femmes ont le retour, surtout dans le domaine du sable. Les bennes qui vendent le sable, on retrouve beaucoup de femmes là-dedans. Mais les autres secteurs, c'est pas très évident. C'est très, très faible.
Et parlons d'un autre secteur. Et parlons de notre secteur pour Monsieur Bengali. Il s'agit du monde rural aujourd'hui. Quelle place elle occupe dans le marché de l'emploi?
Le monde rural, parce que quand on parlait des femmes déjà, parce que c'est le monde rural déjà, il faut reconnaître que c'est quand même un domaine très important qu'on doit vraiment privilégier dans le pays. Parce que déjà, dans ce domaine, il y a déjà, il contribue à 33% du PIB. Le PIB national. Et il emploie aussi 79% de la main-d'œuvre active dans le pays. Donc, c'est un qu'on ne peut pas négliger. Et les recettes d'exploitation humaine, ça fait 20% déjà dans le secteur. Comprenez qu'on doit, il faut tout faire quand même pour valoriser ce domaine-là. Mais ce n'est pas évident parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous dire, quand vous demandez à un cultivateur, est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Ah, moi, je ne suis pas un cultivateur. C'est comme si un cultivateur n'était pas un travailleur. Alors que c'est des gens qui sont là, qui travaillent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, pour valoriser ce secteur, il faut aller vraiment vers, comment on appelle encore, la fonctionnalisation des parcelles. Voilà. Quand on va professionnaliser et qu'il y a des titres à niveau que les gens exploitent, ça nous permettra de bien structurer le domaine. Parce que quand on regarde les pays bien développés, il est évident quand même qu'à ce niveau, l'agriculture, parce que quand on parle d'agriculture, il faut noter l'élevage aussi et puis qu'on appelle l'élevage et puis la pêche aussi, mm-hmm. parce que ça fait partie. Donc il s'agit maintenant de s'organiser. Et le rôle du syndicat à ce niveau aussi, c'est de
Monsieur, merci à vous. Le temps imparti est terminé et c'est ce qui met fin à cette émission qui réfléchissait sur comment se porte le syndicalisme au Mali. Nous étions avec Issa Bengali, secrétaire administratif de l'INTM, Adama Koulibaly, syndicaliste et président du syndicat Centru Mali, un syndicat de chauffeurs, à la régie son et de transporteurs, excusez-moi, à la régie son et vidéo, il y avait Gagné Kanté et Adjaratou Traoré. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani ou Amakara. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halou Gmoun.
Chien Nibiri.
Sigi Kafoba.